Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation, merci pour les louanges et la gloire de notre Seigneur. Et en ce qui concerne la lecture d'aujourd'hui, donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors sur la montagne des Oliviers, où Jésus s'est retrouvé avec ses disciples, ces derniers posent la question à Jésus, mais quand aura lieu ton avènement? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la fin du monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jésus parle des temps de la fin en précisant que seul le Père en connaît le programme exact. Rien de cela ne sera dévoilé à qui que ce soit. Alors en lisant ça, ça me fait penser à un événement qui s'est passé bien longtemps auparavant, sur justement cette préparation à la fin des temps. Et ça me fait penser à cette lecture que l'on retrouve dans Matthieu 24, les versets 37 à 44. Alors je vais les lire pour vous. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge les emporte à tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a eu avertissement, cela va se passer, il y a eu un temps de préparation, et puis cela est arrivé. » Alors Jésus ajoute la chose la suivante, « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il sera récompensé. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Oh, mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, personne ne le sait, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et là, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Très bonne similitude entre ce qui s'est déjà passé et ce qui va se passer. Car ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et ensuite, Jésus propose la parabole des 10 vierges. Alors, comment devons-nous comprendre la parabole des 10 vierges? On ne va pas rentrer dans tous les détails, on va dégager quelques aspects. Alors, déjà, nous allons lire ensemble, écoutez notre frère lire donc Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Merci pour la lecture de la parole. Donc on retrouve encore, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc là, on a une illustration de 10 personnes, 5 dites sages et 5 dites folles. Alors cela nous renvoie à d'autres versets. Hein, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. Et puis encore dans Marc, au chapitre 13, les versets 33 à 37. Prenez garde! « Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Alors après, on verra qu'il ne faut, il y a certaines choses à ne pas prendre au pied de la lettre. Dieu ne nous demande pas d'être les yeux grands ouverts, 24 sur 24. C'est physiologiquement impossible. Donc il faut faire aussi attention aux interprétations que l'on donne aux choses. Donc chaque fin de journée, ça me fait penser à cette image, hein, l'image du serviteur, hein, qui est en charge d'une maison. Ça fait penser aussi à l'Église qui est en charge de la maison du Seigneur, de la transmission du message, de l'édification, de notre préparation commune au retour et à la rencontre avec notre Seigneur. Donc chaque fin de journée, le serviteur devait s'assurer que tout était en ordre, propre, rangé, le garde-manger rempli, afin que si le maître rentrait en pleine nuit ou tôt le matin, ce serviteur ne soit pas pris au dépourvu ni en défaut. Il pouvait se reposer, tout était prêt. Alors vous savez que pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin. Et là, en l'occurrence, dans les versets que notre frère a lus dans Matthieu 25, 1-13 sur les 10 vierges, le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille. Il en découle deux coutumes. Premièrement, le festin a lieu dans la maison de l'époux. Hein, souvenons-nous des noces de Cana. Et puis deuxièmement, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique, des chants pour la ramener chez lui et dans la salle de noces. Les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans invitation particulière, à condition d'être revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leur lampe. La parabole de Jésus met donc là en scène deux groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège, quelque part entre les deux maisons, sur le chemin du cortège. Alors, elles apportent toutes leurs lampes, hein, afin d'être admises dans le cortège et de pouvoir l'illuminer. Donc, vous savez, hein, les lampes se composaient d'un réservoir avec un bec et puis une mèche, hein, que l'on allumait. Et voilà, l'huile se consumait et cela donnait de la lumière. Cinq sont dites insouciantes, voire même folles, dit le texte. Elles ne pensent qu'au plaisir d'aller faire la fête. La porte va entrer et nous, on va faire la fiesta. Il va y avoir de la musique, des chants, on va danser, on va manger, on va boire, on va s'amuser. Les cinq autres sont dites prévoyantes, sont dites sages, dit le texte. Elles réfléchissent qu'il y aura peut-être une certaine attente entre le moment où l'époux va sortir d'une maison et aller dans l'autre. Ce qui ne va pas les empêcher, si on reprend la première explication pour les folles, de s'amuser, de manger, de chanter, de danser. Mais elles pourront y entrer. Alors comme l'époux tarde, on voit que tout le monde s'endort, ce qui est légitime. Les lampes brûlent. Et il n'est pas facile à cette époque de trouver de l'huile n'importe où. Et l'époux arrive, passe, alors les lampes doivent être apprêtées pour allumer les mèches afin que l'on puisse suivre le cortège. Les sages ont eu la précaution, comme on le voit, de prendre avec elles, donc les lampes déjà bien pleines, mais aussi un vase à côté, une réserve, afin d'apprêter la lampe au cas où elles n'auront pas assez d'huile. Et c'est ce qui se passe. Elles ont la possibilité de recharger leurs lampes. Et là, on voit que les vierges sages peuvent participer au cortège, mais pas les vierges folles. Et quand elles enfin trouvent de l'huile, elles arrivent à la porte, mais la porte est fermée et on ne les autorise plus à entrer. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'ajouterai, si vous me le permettez, soyons prêts, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Alors là, attention quand même. Jésus n'a pas dit que 50% des chrétiens seront enlevés et 50% seront restés dehors. Mais de nous montrer, dans cette parabole, l'importance de la préparation. L'importance de la préparation de chaque chrétien afin de rencontrer son Seigneur. L'huile, vous connaissez la symbolique de l'huile que l'on retrouve dans certains passages. Là, l'huile est symbole du Saint-Esprit. Et peut-être dans cette parabole, utilisée, et sûrement utilisée, pour souligner l'importance capitale d'être né de nouveau, né de l'Esprit. Être prêt et ne pas vivre selon la chair, être folle ou être insensé. Parce que souvenez-vous de cette parole dans Romains au chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Cette nouvelle naissance est indispensable pour participer à l'enlèvement de l'Église. Car c'est précisément le manque d'huile qui fait la différence entre les sages et les folles. Bien sûr, cela ne doit pas non plus nous traumatiser au point que toutes les 3 secondes, on arrive à se poser la question « Est-ce que je suis prêt ?» Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. De me dire, est-ce que je suis prêt? Mais est-ce que vraiment je suis prêt? Mais est-ce que réellement je suis prêt? Mais si nous nous efforçons d'obéir au Seigneur et de laisser le Saint-Esprit agir en nous, faire son œuvre en nous, nous pouvons connaître le repos de la foi. Nous pouvons nous reposer et attendre la venue du Seigneur avec une sereine confiance. D'avoir un repos tranquille parce que nous sommes prêts. Il y a un dernier aspect que j'aimerais souligner avec vous. C'est les vierges folles demandent aux vierges sages, donnez-nous de l'huile. Là, on va dire, donnez-nous de la foi, parce qu'on n'a pas été prêt. Je prends quelques raccourcis, mais on aurait besoin de développer beaucoup plus cet aspect. Cela montre que l'on ne peut pas emprunter. C'est une autre leçon à tirer de cette parabole. C'est que quel que soit notre niveau de foi, de courage, de caractère, de conviction, de préparation, de bonnes œuvres ou de degré de conversion, je ne peux pas prêter, moi Jean-Michel, je ne peux pas prêter ma foi à quelqu'un. Comme Stéphane ne peut pas me prêter sa foi. On ne peut pas prêter notre huile, si on veut le rapprocher à notre parabole d'aujourd'hui. On ne peut pas en partager, dans le sens où je te donne ceci. Je te donne ce que j'ai, je ne peux pas donner ce que j'ai. C'est Dieu qui m'a donné, et c'est Dieu qui donnera à chacun, comme nous l'avons vu la dernière fois. Dieu donne à chacun. Moi je peux expliquer certaines choses, mais je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, ta foi, elle était là, maintenant elle sera là, parce que je te donne quelque chose. Je ne peux pas emprunter, je ne peux ni donner ni emprunter. Ce sont des qualités qui sont strictement personnelles. Nous avons tous des degrés de foi différentes. Des tailles de foi différentes, un volume, on va dire, parce que nous avons tous la foi, nous avons tous la graine est en nous, c'est sûr et certain. Et là, l'Écriture nous montre aussi que tout ce que nous bâtissons sera soigneusement testé. Et si le test est positif, si nous avons bien nos lampes apprêtées, nous serons récompensés. Voilà ce qu'il faut voir dans le fait d'entrer dans les noces, c'est d'être récompensé. Il est question de récompense de chaque chrétien dans la parole de Dieu. Ainsi, la façon dont nous construisons, la façon dont nous nous préparons et les matériaux que nous utilisons, c'est très important. Nous devons bâtir avec soin, avec sérieux, et choisir nos croyances avec sagesse. Dans quelque temps, nous partagerons ensemble la réflexion sur la sagesse. N'oublions pas cette parole d'Amos, je terminerai par ce dernier verset avant de conclure. Amos, chapitre 4, verset 12, il nous avait laissé ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Être prêt. Être prêt. Alors, je terminerai par ceci. Bien que, comme je vous disais, on peut encore développer et apporter encore d'autres explications, mais là, nous avons dégagé l'essence. La vision de ce qu'est cette parabole. Ce qui est important maintenant, c'est de se dire, c'est d'avoir conscience que si nous avons des affaires à régler, je dis des affaires à régler, alors ça englobe tout ce qui peut venir à votre esprit. et qui ne serait pas en adéquation ou en opposition avec la pensée de Dieu. Il est nécessaire d'y apporter une action et de les purifier au nom de Jésus. Il est nécessaire de s'assurer que notre huile est pure et que nous en avons en réserve pour être prêts. Si nous avons conscience que sur telle et telle chose nous ne sommes pas prêts, il est encore temps. Dieu dit, il use de patience. Il use de patience aussi envers nous, chrétiens, qui aurions encore des choses à éliminer, à purifier, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et surtout la rende fertile en nos vies. Et que notre huile puisse se quantifier et se qualifier. Hein, la meilleure des huiles, c'est première pression à froid. Hein, vraiment le nectar. C'est ce qu'il faut rechercher. Un bon nectar, une bonne huile, une bonne onction. Amen.